Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Votre quart d'heure américain.
Bonjour à tous, vous écoutez 2020, le podcast Made in America de l'AFP. Je suis Antoine Boyer. Comme chaque semaine, on plonge ensemble dans le grand bain de cette présidentielle américaine. Au menu de ce troisième épisode, le système de santé et son coût exorbitant pour des millions de personnes. Ce sujet est devenu un enjeu majeur de la campagne électorale.
By the way, that is a lie. Of fake news back there. That's a lot. That's a lot.
Not my president! Not my president! Not my president!
Aux États-Unis, les dépenses de santé sont nettement supérieures à celles de tous les autres pays développés, plus de 10 000 dollars par an et par habitant, deux fois plus qu'un Français ou un Canadien. Le système de santé hors de prix est difficile à comprendre et franchement stressant. Une petite anecdote personnelle. En décembre dernier, je vais voir un premier médecin pour un pépin de santé. Il n'est pas rassurant du tout. Alors quand un second médecin me conseille également de faire un examen poussé pour vérifier que tout va bien, je ne rechigne pas. Pas assez de temps pour rentrer en France et puis je suis hypochondriaque. Je vérifie pour la énième fois que cet hôpital de Washington est bien dans le réseau couvert par mon assurance. Oui, je suis jeune, j'ai 30 ans et je suis en bonne santé. J'avais donc décidé de souscrire à l'option la moins chère proposée par mon employeur, une trentaine de dollars par mois. Le jour de l'examen, tout se passe correctement, les équipes sont formidables et fort heureusement, je vais bien. Mais l'hôpital facture en tout plus de 6000 dollars, mon assurance négocie un rabais et paye une partie, il me reste à débourser près de 1000 dollars de ma poche. Joyeux Noël! Un candidat à la Maison-Blanche en particulier s'est saisi du problème des coûts du système de santé. Il s'agit de Bernie Sanders. Le sénateur du Vermont est monté dans un autocar d'Américains diabétiques qui traverse la frontière canadienne à la recherche d'insuline, un médicament vital pour eux. Son objectif, dénoncer les prix exorbitants pratiqués par l'industrie pharmaceutique aux États-Unis.
This is a vial of insulin in the United States that will cost $350-$400.
Un flacon d'insuline à la main, Bernie Sanders présente un médicament qui coûte 350-400 dollars aux États-Unis, 10 fois moins cher au Canada, 35 ou 40 dollars, dit-il. Fabriqué par la même entreprise, la différence, Ottawa plafonne le prix de l'insuline.
I refuse to pay into that system.
Travis Paulson, 47 ans, habite dans le Minnesota, un grand état du nord des États-Unis. L'homme aux cheveux poivre et sel plaqués en arrière ne prend pas le car avec Bernie Sanders, mais quatre fois par an, il roule deux heures pour arriver de l'autre côté de la rivière, à la frontière canadienne, pour acheter son insuline, moins chère et sans ordonnance.
If I had to backpack it through the boundary waters in a canoe with insulin in a backpack, I would. I just will not pay what they're asking.
Si je devais aller chercher mon insuline en canoë, je le ferais, je refuse de payer ce qu'il demande, dit Travis. Pour ses visites chez le médecin, son assurance américaine est excellente. Pour ses médicaments comme l'insuline, beaucoup moins. Elle ne couvre que 50% du prix. Quand ces Américains diabétiques, ni riches ni pauvres du Minnesota, ne traversent pas la frontière, ils se contactent sur Facebook et s'échangent des fioles. Un marché noir de l'insuline gratuit aux États-Unis en 2020. La quasi-totalité des médicaments vient des stocks non utilisés des personnes diabétiques décédées donnés par leurs proches. Un matin de janvier sur un parking de la banlieue de Minneapolis, le froid est glacial quand Annette Gentil vient à la rencontre d'Abigail Hansmeyer. La première a les cheveux châtains, la seconde est brune. Elles sont toutes deux diabétiques de type 1. Dans le sac marron que vient de lui donner Abigail, Annette reçoit de l'insuline pour un petit mois. En pharmacie, elle aurait dû débourser 1000 dollars pour un stock identique.
Thank you. I rely on donations all the time for my insulin.
Je dépends entièrement des dons pour mon insuline. Je ne peux pas me permettre du tout d'aller à la pharmacie pour mon insuline, dit Annette, 52 ans. Son assurance publique ne rembourse pas les médicaments. Si Abigail, 29 ans, qui a fourni Annette, est dealeuse d'insuline, Nicole est sa grossiste. Coupe au carré, la femme blonde aux yeux bleus nous emmène dans son sous-sol et dévoile ses stocks. Elle ouvre son second réfrigérateur.
And then in my fridge, I have probably about $50,000 worth of insulin.
À l'intérieur, des dizaines de boîtes d'insuline et autres produits, $50,000 en tout selon elle.
It is not legal. It is absolutely illegal what I'm
Elle le reconnaît, ce qu'elle fait est complètement illégal.
You know, at times I am concerned that
Nicole Smith-Holt explique être inquiète parfois d'être poursuivie en justice, mais elle pense faire quelque chose de plus important, sauver la vie des gens.
I think what I'm doing, you know, it's saving people's lives, and I think that's more important.
Nicole fait ça pour son fils Alec, jeune papa, il est mort à l'âge de 26 ans, un décès lié à un manque d'insuline. Cela faisait 27 jours qu'il était sans assurance. Yvan Couronne est avec moi. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Tu es journaliste à l'AFP, spécialiste des questions de science et de santé aux États-Unis. Yvan, tu es l'auteur du reportage dont je viens de parler. Yvan, comment peut-on expliquer que dans le pays le plus prospère de la planète, des personnes diabétiques s'échangent de l'insuline ?
Parce qu'ici, la santé, ce n'est pas un droit, c'est un produit. Et malheureusement pour les gens que j'ai interviewés dans le Minnesota et tous les gens qui tombent malades régulièrement, eh ben ce produit coûte de plus en plus cher. Voilà pourquoi les gens sont obligés de trafiquer, de se débrouiller et de vivre dans cette anxiété permanente de savoir comment ils vont payer pour, en l'occurrence, le seul médicament qui peut les maintenir en vie.
En gros, il n'existe pas une assurance publique universelle comme en France, c'est ça ?
Voilà, exactement. Personne n'a une carte vitale comme en France ou au Canada. Les gens ont une carte de santé. Non. Ici, c'est chacun pour sa peau, grosso modo. Alors, la moitié des Américains, à peu près, a une assurance par son employeur. Un tiers a une assurance par les programmes publics. Donc ça, c'est les gens pauvres, voire très pauvres, certaines personnes qui ont un handicap, et les plus de 65 ans. Ça, c'est des acquis des années 60. Barack Obama, en 2010, a voté une réforme, tout le monde connaît, on appelle ça Obamacare. Ça a permis de ramener dans le champ de l'assurance peut-être 20 millions de personnes. Mais aujourd'hui, il y a encore 9 ou 10% de la population qui n'a pas d'assurance parce que ça coûte trop cher. Mais l'objet de mon reportage, c'était que même ceux qui ont une assurance, qui arrivent à se payer une assurance à 500, 600, $700 par mois, ceux-là n'ont pas la tranquillité d'esprit. C'est des assurances qui ne couvrent pas vraiment.
Chez les Makou, Olivia a eu 140 opérations du cerveau depuis sa naissance. Yvan a rencontré cette famille.
C'est une famille assez aisée, hein, belle maison, trois filles. Et malheureusement pour eux, ça fait 24 ans que tous les ans, ils dépensent des milliers de dollars parce que leurs filles ont des problèmes assez graves. Une de leurs filles est née très prématurément et elle avait de l'hydrocéphalie. Enfin, elle a été opérée des dizaines et des dizaines de fois du cerveau. Et donc, cette famille a appris à vivre avec une dette médicale depuis 25 ans. C'est des centaines de milliers de dollars qu'ils ont dû payer au fil des années. Ils ont toujours été assurés. Hein, ça illustre ce qu'on disait avant. Ils ont toujours eu plutôt des bonnes assurances, mais les assurances ne couvrent pas à 100%. Et donc, ils ont pris des emprunts, ils ont re-hypothéqué leur maison. Et voilà, c'est un jonglage financier permanent. Et eux, c'est vraiment un cas extrême. Mais j'ai vu leur tableau. Ils ont tenu méticuleusement toutes leurs dépenses et c'est effrayant. C'est en gros $15,000 par an en plus du coût de l'assurance mensuelle.
Les assurances ne couvrent pas à 100%, les gens ne sont pas tous assurés et surtout, tout coûte très cher aux États-Unis. Comptez jusqu'à $7,500 sans assurance pour une jambe cassée et le coût moyen d'un séjour de 3 jours à l'hôpital est d'environ $30,000.
Mais le problème fondamental du système de santé américain, c'est qu'il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de pilote. Personne ne contrôle les prix, personne ne dit, voilà, un IRM ça doit coûter tant, une opération des hanches, ça doit coûter X. Donc c'est un enchevêtrement de responsabilités privées et publiques. Ça, c'est le produit de l'histoire. On n'a pas voulu, comme en Europe ou dans d'autres pays, avoir un architecte, un pilote qui met des garde-fous. Et c'est pour ça que les hôpitaux ont énormément augmenté leurs prix. En fait, une des grosses causes de l'inflation dans le système de santé américain, c'est les hôpitaux. C'est de l'ordre de plus 4 ou plus 5% par an. Les médicaments, c'est pareil. Très forte progression des prix. Et l'insuline, qui est absolument vitale pour les gens qui ont du diabète de type 1, il y a trois laboratoires pharmaceutiques qui se partagent le marché aux États-Unis. Les prix ont triplé ou quadruplé depuis le début des années 2000. Il n'y a aucune raison que ça augmente d'autant. Mais personne n'est là pour leur dire non, c'est bon. Le flacon d'insuline que vous vendiez $50 il y a 15 ans, vous ne pouvez pas le vendre $300 aujourd'hui. Non, personne n'est là pour ça.
Pour ramasser ces milliards de dollars, l'industrie pharmaceutique peut compter sur ses lobbies ultra puissants. J'ai demandé à Yvan si on pouvait répondre à l'hôpital. Non, c'est trop cher pour moi, je ne paye pas.
Si tu payes pas ta facture d'hôpital de $5,000, de $20,000, si tu ignores, l'hôpital va porter plainte contre toi et va t'emmener devant les tribunaux. Il y a des milliers de gens comme ça qui finissent devant un juge, et le juge finit par ordonner une retenue sur salaire. Heureusement, la presse est là. Et il y a pas mal de journaux américains, notamment des journaux locaux, qui se sont intéressés à tous ces hôpitaux qui portent plainte et qui traînent leurs patients devant les tribunaux. Et alors, dès qu'il y a un petit peu de couverture presse sur cet hôpital qui réclame $5,000 à ses propres infirmières qui sont tombées malades. Bon, en général, les hôpitaux commencent à abandonner et à réduire la facture de 20 000 à $200. C'est arrivé. Après, tu n'as pas vraiment le choix, quoi. Si tu refuses de payer, c'est comme avoir une dette parce que tu n'as pas payé ta voiture ou parce que tu n'as pas payé ta maison. Enfin, tu peux avoir des gros problèmes. Et il y a même des gens qui vont jusqu'à la faillite.
Le système de santé américain est donc un marché où les assurances privées proposent et négocient des produits pour des patients considérés comme des consommateurs. Voilà précisément ce que veut changer Bernie Sanders.
Nous avons beaucoup avancé ces 4 dernières années pour faire admettre aux Américains le principe que les États-Unis d'Amérique ne devaient pas être le seul grand pays sur Terre à ne pas faire de l'accès aux soins pour tous un droit.
Les lignes bougent quand même. Il y a 4 ans, à la campagne présidentielle précédente, Bernie Sanders parlait déjà d'un système de santé public pour tout le monde, centralisé. Et Hillary Clinton, son adversaire, ricanait, disait non, mais c'est pas possible, on va pas refaire une révolution, on vient de faire la réforme Obamacare. Et les lignes ont complètement bougé depuis 4 ans. La majorité du Parti démocrate aujourd'hui est vraiment en faveur d'une action très volontariste pour renforcer le rôle des pouvoirs publics, pour réguler les prix et pour vraiment aller contre les hôpitaux, contre les laboratoires, pour vraiment faire baisser les prix.
La santé est l'enjeu principal de la campagne chez les démocrates qui se cherchent un candidat pour défier Donald Trump. Si tous les prétendants s'accordent sur la fin, améliorer la couverture médicale, ils sont divisés sur les moyens d'y parvenir. D'un côté, l'aile gauche, avec le sénateur Bernie Sanders et Elizabeth Warren, élue du Massachusetts.
Nous avons besoin d'un système de santé qui reconnaisse que l'accès aux soins est un droit humain et je me battrai pour ça.
Leur programme Medicare for All, une couverture santé universelle publique pour tous, à l'européenne en somme. Plus de factures surprises à la fin du mois, plus de médecins non couverts par son assurance, promettent-ils. L'autre camp, les centristes du parti, reprochent à l'aile gauche de s'en prendre à la liberté de choisir entre une assurance publique ou une assurance privée.
Medicare for All pour ceux qui le veulent est différent de Medicare for All car il offre un choix. Si vous préférez une couverture publique, et je pense que ce sera le cas de beaucoup d'Américains, c'est possible. Mais vous pouvez garder votre assurance privée si vous préférez.
Celui que vous venez d'entendre, c'est Pete Buttigieg, le Benjamin de la course démocrate. Comme Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, ou Michael Bloomberg, l'ex-maire de New York, ce centriste est en faveur d'une extension de l'assurance publique, mais pas touche aux assurances privées. Alors l'ennemi commun de tous ces candidats, c'est Donald Trump. Et le président républicain, lui, agite l'épouvantail du socialisme, un mot bien plus marqué à gauche aux États-Unis qu'en Europe.
Pendant que nous travaillons à améliorer l'accès aux soins des Américains, il y a ceux qui veulent vous enlever votre couverture santé, vous retirer vos docteurs et abolir totalement les assurances privées. 132 élus de cette Chambre ont approuvé une législation qui impose une prise de contrôle socialiste de notre système d'assurance santé, anéantissant les programmes d'assurance santé privés de 180 millions d'Américains très heureux. À ceux qui regardent à la maison ce soir, je veux vous dire, nous ne laisserons jamais le socialisme détruire la couverture médicale américaine.
Et bien sur le terrain de la santé, la campagne électorale promet d'être électrique. C'était 2020, un podcast de l'AFP Made in America. J'espère que vous avez passé un bon moment. Le reportage texte, photos et vidéos sur l'insuline réalisé par Yvan Couronne, Kerem Youssel et Cathy Schubauer est à retrouver sur nos comptes Twitter AFP USA et AFPFR. Un grand merci à toutes nos équipes à Washington et à Paris qui nous aident à réaliser ce podcast. Pour ne rien rater de cette aventure présidentielle, une seule chose à faire, abonnez-vous à 2020 sur votre appli de podcast préférée. À vendredi prochain, Américainement Vôtre.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.